Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Pas une semaine ne passe sans qu'une nouvelle étude ne paraisse sur le microbiote intestinal. Ces micro-organismes qui peuplent notre tube digestif s'avèrent indispensables à notre bien-être. Des déséquilibres de cette flore microbienne pourraient être impliqués dans des troubles tels que l'asthme, les affections intestinales inflammatoires, l'obésité ou encore le diabète de type 2. Ces découvertes récentes laissent entrevoir de nouvelles approches thérapeutiques. Nous allons en parler cet après-midi. Vers 15h45, nous allons nous intéresser à ces nouvelles technologies capables de nous plonger dans une autre réalité, à la fois totalement imaginaire et hyper réaliste. Nous verrons ce que ces dispositifs de réalité virtuelle révèlent du fonctionnement de notre cerveau et de ses formidables capacités d'adaptation. À 16h, le glaciologue Cyprien Verseux nous racontera les 9 mois qu'il a passé au beau milieu de l'Antarctique, dans une base scientifique qui, pendant l'hiver austral, est totalement isolée du reste du monde. Et en fin d'émission, nous nous intéresserons aux particularismes régionaux de la langue française avec le linguiste Mathieu Avanzi. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Rémi Sistiaga et Florent Layani.
France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé.
Les microbiotes, c'est comme une forêt avec un tas d'espèces qui interagissent. Des petites fougères, des arbres, des sapins, des insectes, des animaux, beaucoup d'espèces en interaction. Et comme une forêt, le microbiote est fragile.
Et pour parler du microbiote et de sa fragilité, autour de la table, Joël Doré, microbiologiste à l'INRA de Jouy-en-Josas, où il dirige l'unité Métagénopolis, et Harry Sokol, gastro-entérologue et chercheur à l'hôpital Saint-Antoine. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Joël Doré, l'analogie que nous venons d'entendre entre notre microbiote intestinal et puis cette forêt et tout cet écosystème forestier, ça vous semble pertinent ?
Bah, tout à fait. On est chaque humain porteur de ou en interaction avec 50 000 milliards de bactéries et des champignons, des levures, des archées, des phages, des virus. Donc on est effectivement un écosystème. On est plus que ça encore. On est une symbiose. On interagit en permanence avec ces microbes.
C'est ça. Non seulement ils nous peuple, mais en fait, ils font un peu partie de nous, tous ces micro-organismes que vous venez de citer. Pas seulement des bactéries, vous nous avez dit, c'est beaucoup plus vaste que ça, ce microbiote.
Tout à fait. Et ils sont en interaction permanente avec nos cellules. Ils vont contribuer à notre développement après la naissance et à notre construction fonctionnelle.
Oui. Harry Sokol, si on réfléchit à ça, finalement, notre corps, il y a davantage de cellules extérieures à notre corps avec ces micro-organismes que de cellules qui font partie de notre corps.
Effectivement, pendant longtemps, on a dit qu'il y avait 10 bactéries à peu près pour une cellule humaine. Ces chiffres ont été revus récemment. On dit maintenant qu'il y a à peu près autant de bactéries que de cellules humaines. Mais si on ajoute à ces bactéries les champignons, les virus dont Joël a parlé, effectivement, on a plus de cellules non humaines dans notre corps que de cellules humaines.
Quand on passe sur la balance et qu'on se pèse, une bonne partie du poids qui s'affiche est celle de ce microbiote ?
Effectivement, on estime que à peu près 2 kilos chez un adulte normalement constitué, c'est ce que pèse le contenu intestinal. Alors ça ne veut pas dire que ce sont que des bactéries dans ces 2 kilos, puisqu'on a aussi de l'eau, tout un tas d'autres éléments, mais effectivement, de l'ordre de 2 kilos.
Alors, il ne faut pas les voir comme des parasites, tous ces micro-organismes, ils jouent des rôles bénéfiques pour le fonctionnement de notre organisme. Quel genre de service nous rendent-ils ?
Alors, ce microbiote, il joue des rôles absolument fondamentaux pour le fonctionnement normal de notre organisme. On peut distinguer des rôles dans le métabolisme, la production d'un certain nombre de vitamines, la dégradation de produits toxiques que l'on peut ingérer volontairement comme les médicaments ou involontairement également. Un rôle dans l'immunité, stimulation de l'immunité, maturation de l'immunité dans l'intestin, mais aussi beaucoup plus globalement dans l'ensemble de notre corps. Un rôle dans la protection contre les infections, notamment dans l'intestin, puisque si vous avez un microbiote normalement constitué, les bactéries qui sont présentes vont entrer en compétition avec des mauvaises bactéries qu'on peut rencontrer, par exemple. Et puis également, c'est plus récent et peut-être plus surprenant, un rôle dans la modulation des fonctions de notre cerveau. Ça paraît un petit peu farfelu comme ça quand on le dit, mais en fait, il y a énormément de raisons de penser que c'est vrai.
Joël Doré, quel genre d'expérience prouve que notre microbiote, on parle bien de ces micro-organismes qui sont dans notre intestin, ont une influence sur notre cerveau, notre façon de penser, notre humeur parfois aussi.
La base de travaux qui permettent de démontrer l'importance fonctionnelle que peuvent avoir les microbes, c'est l'utilisation de modèles animaux qui sont élevés sans germes, qu'on élève dans des bulles stériles, qu'on élève avec de l'alimentation stérile, dans des cages stériles, etc.
Donc et dépourvu de microbiote.
Totalement dépourvu de microbes depuis leur naissance, en fait, et qu'on peut inoculer, auquel on peut apporter un microbiote, alors un microbiote animal ou un microbiote humain, dans sa complexité. Et dans ce cas-là, on a la possibilité, en comparant l'animal sans germes et l'animal colonisé, de démontrer les rôles et les fonctions que peuvent exercer les microbes.
Et alors, qu'est-ce que l'on observe dans le comportement de ces souris qui peut changer en fonction des variations du microbiote ?
Alors, si l'on compare des animaux colonisés avec un microbiote avec des animaux sans germes, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes comportements. Et en souris, la présence du microbiote intestinal rend les animaux anxieux sur des mesures formaliser, normaliser de comportement.
Un comportement anxieux peut dépendre de la nature de ces bactéries que l'on a ou pas dans son tube digestif.
Alors également.
En tout cas chez la souris. Alors après, est-ce que c'est transposable à l'homme ?
Alors pour l'instant, ce que l'on a comme démonstration, si on veut s'approcher de ce qui se passe chez l'homme, c'est plus la relation avec des pathologies qui aussi passe par l'utilisation des modèles animaux, entre autres, et un travail à partir duquel on montre que si l'on transfère le microbiote de patients chez des animaux, on est capable de reproduire, de mimer les symptômes de la maladie, nous conduit à penser effectivement qu'il y a ce rôle fonctionnel.
Le microbiote chez les humains varie d'un individu à l'autre ? Dans quelle proportion, Harry Sokol ?
Donc en fait, on a chacun un microbiote qui nous est propre, un peu comme nos empreintes digitales.
Ou notre génome.
Ou
finalement.
Notre génome, absolument. Donc on a chacun un génome et un microbiote différent. En même temps, on a quand même des similarités. De la même manière que dans notre génome, on est capable de reconnaître toutes les similarités qu'il y a d'un individu à l'autre. Donc il y a des fonctions qui semblent conservées chez l'ensemble des sujets sains. Et donc, on va retrouver un certain nombre de bactéries, probablement vraiment comme des piliers du microbiote, chez tout le monde. Et puis, à côté de ces bactéries qui représentent le cœur de ce microbiote, il y a une grande variabilité d'un individu à l'autre.
Alors, notre mode de vie à l'occidental semble malmener notre microbiote. Des chercheurs ont voulu comparer le microbiote des Occidentaux à celui de personnes vivant dans des conditions très différentes, dans des tribus au contact de la nature, par exemple. C'est ce qui a conduit un anthropologue américain à aller à la rencontre du peuple Hadza en Tanzanie, qui vit de chasse et de cueillette.
Il faudra des mois et de nombreuses discussions autour du feu pour convaincre les derniers chasseurs-cueilleurs Hadza que leurs excréments sont précieux pour la recherche. La confiance installée, celui que la tribu a surnommé Dr Mavi, Dr Merde en swahili, fait de multiples prélèvements.
En étudiant les populations occidentales, on trouve X espèces de bactéries. Mais chez les Hadza, ce nombre est beaucoup plus élevé. Ils ont presque deux fois plus de diversité.
Le microbiote d'un Africain comme un Hadza est plus proche de celui d'un Amérindien d'Amérique du Sud, alors qu'ils vivent sur deux continents différents, que du microbiote de n'importe quel urbain, qu'ils vivent au Japon, en Chine, aux USA ou en France.
Un extrait du documentaire Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre. Joël Doré, qu'est-ce qui explique que le microbiote des citadins qui vivent à l'occidental soit si pauvre par rapport à celui des tribus plus ou moins isolées, en lien avec la nature en tout cas ?
Alors, on peut pas donner de réponse certaine par rapport à cette question importante. Par contre, on sait qu'on a maltraité, j'ai envie de dire, notre microbiote et notre relation homme-microbe depuis plusieurs générations déjà, notamment à travers ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. Donc, c'est ce passage d'une alimentation très riche en fibres à une alimentation où on enrichit beaucoup les sucres simples, où on enrichit beaucoup les protéines et les graisses animales, et qui est un petit peu dur pour notre microbiote, dans la mesure où, parmi les sources de carbone et d'énergie qui lui sont apportées par notre alimentation, les fibres occupent une place importante. Et donc, on a un collègue américain qui a travaillé sur l'animal et qui a montré que si on diminue drastiquement l'apport de fibres, on peut diminuer drastiquement sur les animaux la diversité et la richesse du microbiote et au bout de 3 ou 4 générations perdre jusqu'à 30%. Et on ne peut pas reconstituer ce microbiote-là qui est définitivement perdu, sauf à réintroduire le microbiote de départ.
Alors on verra, hein, c'est possible. Maintenant, on envisage des façons de le faire. On verra ça dans la suite de cette émission. D'autres façons d'agresser notre microbiote, il y a les antibiotiques, Harry Sokol. Alors, les antibiotiques, on le sait, c'est fait pour tuer des bactéries, mais ça fait pas le détail. Ça tue les méchantes comme les gentilles.
Disons que les antibiotiques, c'est effectivement non spécifique. Et donc, voilà, c'est un peu une bombe atomique qu'on lance. D'abord, ce qu'il faut quand même dire et ce qu'il faut pas oublier, c'est que les antibiotiques, ça sauve des vies et
ouais,
que
voilà,
c'est extrêmement important. Mais encore faut-il les utiliser avec une intelligence et une précision aussi forte que possible. Donc, les antibiotiques, on a probablement tous fait l'expérience de leurs effets sur notre microbiote. Certains antibiotiques dits à large spectre peuvent entraîner une diarrhée. Et ensuite, ce que l'on sait, c'est que une agression type antibiotique sur le microbiote, ça va entraîner une perturbation, une diminution très forte de la diversité et aussi de la quantité de bactéries dans l'intestin. Et puis, une fois que cette perturbation est passée, le microbiote va avoir tendance à revenir à l'état initial. C'est ce qu'on appelle la résilience. Le problème, c'est que si on répète ces perturbations, ces prises d'antibiotiques, eh bien, au bout d'un certain temps, on ne va plus arriver à revenir à l'état initial. C'est un peu comme un ressort qu'on va étirer une fois et qui va revenir à l'état initial. Mais si vous l'étirez 10 fois de suite, il revient plus à l'état initial. C'est exactement la même chose.
Le mode d'accouchement, les accouchements par césarienne modifient la flore intestinale du bébé et du futur adulte.
Alors, à travers quelques générations, on a effectivement changé tout ce qui entoure la naissance, en termes de mode de naissance et l'environnement de naissance, et la naissance par césarienne est un élément important. En fait, c'est un mode de naissance qui interdit la transmission, ce qu'on appelle la transmission verticale de la mère à son nouveau-né, c'est-à-dire le passage de la filière vaginale et un moment d'exposition majeure d'un nouveau-né qui vient d'un environnement virtuellement stérile et donc qui va capter son inoculum princeps, son début de vie dans un monde microbien, et qui va conditionner énormément de choses de sa vie d'après.
Donc ce sont les bactéries, la flore bactérienne de sa maman, ce que vous
exactement,
appelez cet inoculum.
Exactement, l'inoculum, c'est les bactéries, la flore, alors en partie intestinale de sa maman, qui est acquise ou à laquelle il est exposé au moment de la naissance, et puis qui va progressivement, à travers les 3 premières années de vie, se structurer dans la flore de l'adulte, en fait. Et c'est un moment important. Alors aujourd'hui, on est à un stade où, dans certains pays, dans certaines villes, 90% des naissances sont faites par césarienne. Donc on pense, au niveau de la communauté scientifique, que quelques générations, avec un taux de césarienne aussi élevé, peuvent conduire à un changement de la relation aux microbes et de la biologie humaine.
Et certains additifs alimentaires pourraient aussi avoir un effet sur notre microbiote. Des chercheurs ont testé l'effet d'additifs sur le microbiote de souris. Et les additifs testés étaient le E433 et E466, deux émulsifiants qui sont beaucoup utilisés dans l'industrie agroalimentaire.
Donc ici, chez des souris qui n'ont bu que de l'eau, on voit que les bactéries du microbiote intestinal en rouge sont gardés à distance de la surface de notre intestin grâce à la présence d'une couche de mucus ici, qui est marquée en vert. Et du coup, chez les souris qui ont bu des additifs alimentaires, notamment les agents émulsifiants, les bactéries s'y pénètrent la couche de mucus et viennent se positionner vraiment très proche de la surface de notre intestin où elles vont pouvoir induire une inflammation intestinale et des dérégulations métaboliques et notamment elles développer une obésité et un diabète de type 2. On ne s'attendait pas à des effets aussi sévères et à des maladies aussi poussées chez la souris. On peut penser que ces additifs alimentaires, les agents émulsifiants et d'autres peuvent avoir les mêmes conséquences chez l'homme, donc c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Et on peut penser que ces additifs alimentaires pourraient favoriser l'épidémie actuelle d'obésité et de dérégulation métabolique chez l'homme.
Le chercheur Benoît Chassin, toujours dans ce documentaire « Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre ». Joël Doré, alors là, c'est sur des souris, mais on se dit qu'il y a des chances que ce soit pareil pour les êtres humains. Et ces additifs, on teste 2 additifs, mais il y en a beaucoup plus. Alors, est-ce qu'on est en train de faire un carnage ou de dérégler les microbiotes avec tous ces additifs?
Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Sylvie Gillemant et Thierry de Lestrade, quand ils ont fait ce reportage-là auprès de Benoît Chassin, qui était aux États-Unis à l'époque, ont eu finalement cette primeur de résultats sur la souris. Mais depuis, Benoît Chassin a effectivement montré qu'on trouve des résultats analogues chez l'homme. Et donc on est dans cette situation où on peut, à travers des choix alimentaires, et finalement altérer le microbiote intestinal peut-être un peu directement, peut-être aussi indirectement, parce qu'on voit qu'on stimule une réaction inflammatoire, et donc à travers ça, on va effectivement aggraver un petit peu plus encore la déviation du microbiote intestinal.
Alors, Harry Sokol, si on s'en inquiète, c'est qu'on se rend compte parallèlement que ces déséquilibres du microbiote sont de plus en plus impliqués dans de nombreuses pathologies, dans de nombreuses maladies.
Oui, en fait, c'est finalement assez logique. Si le microbiote joue un rôle si important dans des fonctions très importantes de notre physiologie normale, eh bien, si le microbiote est altéré, s'il marche moins bien, il est assez logique de penser qu'il peut jouer un rôle dans les maladies. Et donc aujourd'hui, on sait que le microbiote joue un rôle dans différentes maladies, des maladies dans l'intestin, évidemment, une maladie infectieuse qui s'appelle l'infection à Clostridium difficile, qui fait par exemple aux États-Unis 25 000 morts par an, et qui est liée notamment à la prise d'antibiotiques répétés et à l'appauvrissement du microbiote, mais aussi des maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, peut-être toujours dans l'intestin le développement du cancer du côlon. Et puis en dehors de l'intestin, comme les molécules produites par les bactéries vont pouvoir diffuser hors de l'intestin, aller dans le sang et atteindre tous les organes de notre corps, un effet très probable dans les maladies inflammatoires hors de l'intestin, articulaires, arthrite, cutanées, psoriasis, peut-être cérébrale, sclérose en plaques, et également possiblement dans d'autres maladies neuropsychiatriques comme la dépression, l'anxiété, l'autisme.
On l'entend, l'appauvrissement du microbiote serait impliqué dans de nombreuses maladies chroniques. L'étude du microbiote intestinal laisse entrevoir de nouvelles voies thérapeutiques comme la transplantation fécale, par exemple. Nous allons en parler dans un instant avec nos invités Joël Doré et Harry Sokol. Vous écoutez France Inter, du vent dans les synapses.
Je le savais, le cœur a ses failles. Pourtant c'est vrai, la surprise est de taille. Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Y avait-il un défaut, un vice caché?
C'est Vague à l'âme sœur de Vanessa Paradis sur France Inter.
Du vent dans les synapses, Daniel Fievé.
Et nous nous intéressons au microbiote intestinal, ces micro-organismes qui peuplent nos entrailles et qui ont une influence sur notre santé, en compagnie de deux spécialistes, Joël Doré, microbiologiste, et Harry Sokol. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine. Alors vous nous avez cité une liste de maladies dans lesquelles le microbiote pourrait être impliqué. Il faut quand même qu'on précise, Harry Sokol, que ce n'est pas automatique et ce n'est pas la seule seule cause de toutes ces maladies. Il ne faut pas non plus complètement inverser l'explication.
Absolument. On a ignoré le microbiote pendant de très nombreuses années, mais ça ne veut pas dire que le microbiote est responsable de tout maintenant qu'on en parle. Donc probablement que dans certaines maladies, ce microbiote va avoir un rôle très important, primordial, et puis dans d'autres, il aura un rôle, mais peut-être un petit peu plus secondaire.
Dans quelle maladie est-il le plus impliqué, le plus suspect?
Alors aujourd'hui, on sait que le microbiote est extrêmement impliqué dans une maladie infectieuse qui est l'infection à Clostridium difficile. Cette infection qui est directement liée à des anomalies de notre microbiote, induit le plus souvent par des antibiotiques. Donc là, c'est une maladie quasiment à 100% liée au microbiote. Pour les autres maladies, on sait un petit peu moins.
Ouais, pour le diabète de type 2?
Alors, on a des données publiées par différents collègues en France et dans d'autres pays qui suggèrent que le microbiote est un acteur. D'abord, lorsqu'on regarde le microbiote de patients atteints d'un diabète de type 2 et qu'on le compare à celui de sujets sains, eh bien, on voit des différences à la fois en composition, mais aussi dans la manière dont ce microbiote fonctionne. Mmh. Et ensuite, chez la souris, dans différents modèles, eh bien, on se rend compte que si on modifie le microbiote, on va modifier la sensibilité des souris à cette forme de diabète.
Pour l'asthme aussi, le microbiote pourrait être impliqué?
Oui, le microbiote semble impliqué également dans l'asthme. On a des données humaines qui montrent qu'en fonction du microbiote dans la petite enfance, eh bien, il va y avoir un risque de développer un asthme un petit peu plus tard dans la vie, notamment si on a reçu, par exemple, des antibiotiques. On revient un petit peu toujours sur les mêmes causes. Des perturbations de ce microbiote tôt dans la vie vont entraîner un risque supplémentaire de développer notamment de l'asthme.
Joël Doré, on l'a évoqué dans la première partie, mais l'obésité aussi, il pourrait y avoir un facteur déterminant qui dépendrait du microbiote dans le fait que certaines personnes qui mangent autant que d'autres souffrent d'obésité.
Alors ce qu'on a observé dans l'obésité, c'est effectivement, de façon analogue à de nombreuses autres pathologies, une déviation du microbiote intestinal chez les patients par rapport au sujet sain. On a montré également que quand on transfère le microbiote d'humain vers des animaux sans germes, comme on l'évoquait tout à l'heure, et notamment à travers une étude qui portait sur des jumeaux discordants pour l'obésité, un des jumeaux étant obèse et l'autre pas, eh bien, quand on transfère le microbiote du jumeau obèse, on va effectivement induire un risque de développement d'obésité chez les souris par rapport à son jumeau non obèse.
Ouais. Alors, ça ouvre une piste pour la médecine, ça. Est-ce que en réparant le microbiote, on peut améliorer la santé de certains patients à risque au col?
En tout cas, c'est une hypothèse qui est tout à fait valide et qui est poursuivie très activement actuellement. Si le microbiote est impliqué dans les maladies et qu'il est altéré, ça devient une cible thérapeutique, tout simplement. Donc aujourd'hui, on travaille sur ce genre d'approche. On peut moduler le microbiote de différentes manières. Il y a d'abord l'alimentation, c'est la manière la plus simple, je dirais, et aussi assez efficace pour modifier son alimentation. Si on change son alimentation, partant d'une alimentation très occidentale à un régime enrichi en végétaux, en quelques jours, notre microbiote se modifie de manière très importante. Donc l'alimentation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ensuite, on peut mentionner les probiotiques et les prébiotiques.
Alors c'est quoi ça?
Alors les probiotiques, ce sont par définition, on va dire, des micro-organismes, bactéries ou levures, qu'on va ingérer normalement vivantes et qui vont avoir des effets bénéfiques sur notre santé, ce qui est une définition relativement vague, mais effectivement c'est un moyen d'avoir un impact. Et le probiotique le plus utilisé, c'est tout simplement le yaourt que l'on consomme de manière quotidienne.
Mais ça marche vraiment ça, Joël Doré, réensemencer sa flore en mangeant des yaourts?
Alors on a quelques données sur des souches, c'est vraiment la souche qui est importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser du tout, il faut que ce soit une bactérie très particulière pour vraiment démontrer des effets. Mmh. On a des données qui nous montrent que les bactéries pendant le transit sont capables d'avoir des effets. Elles vont par exemple protéger contre les effets induits par un traitement antibiotique en renforçant notamment la robustesse écologique de notre écosystème intestinal. C'est vrai pour certaines bactéries, pour certaines levures. Mmh. On a des données sur leurs propriétés d'interaction avec nos défenses naturelles. Elles peuvent, dans certains cas, pour certaines souches, renforcer les défenses naturelles. Et donc sur cette base-là, sur la base de démonstration chez l'homme, chez l'animal, on va effectivement documenter des effets avérés. Il y a une tendance aujourd'hui à un petit peu généraliser qui est dommage parce que effectivement il faudrait qu'on ait la démonstration scientifique dans un petit peu plus de probiotiques que ce qui est proposé aujourd'hui de façon assez large j'ai envie de dire au consommateur, à monsieur tout le monde qui est un peu livré à lui-même pour essayer de voir si pour lui ça marche ou pas.
Et puisque les scientifiques cherchent, en tout cas les médecins, à enrichir les microbiotes de patients qui ont un microbiote appauvri, eh bien les excréments de personnes au microbiote riche et sain deviennent intéressants pour les médecins, à tel point qu'un microbiologiste aux États-Unis a créé une start-up d'un genre nouveau, une banque d'excréments.
Il y avait un grand besoin, un grand vide à combler. On est arrivé et on a fourni une solution qui a vraiment aidé les patients et les médecins. C'est eux-mêmes qui le reconnaissent d'ailleurs.
Chaque matin, dans les locaux d'Open Biome, c'est un peu la valse des donneurs. À 40 dollars la crotte, une activité régulière peut se révéler lucrative à la fin du mois. 1000 dollars pour les plus assidus. Mais si les vocations sont nombreuses, peu de candidats sont retenus.
Nous sommes très rigoureux dans notre processus de sélection. Les candidats doivent répondre à 200 points d'un questionnaire médical avec un médecin de l'équipe. Leurs selles et leur sang sont soumis à 30 analyses différentes. Et à la fin de tout cela, s'ils remplissent les critères, alors ils peuvent devenir donneurs.
Harry Sokol, qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces crottes achetées à prix d'or ?
Alors, la transplantation fécale, aujourd'hui, elle s'est utilisée en pratique clinique dans une seule indication. C'est la maladie dont je vous parlais précédemment, cette infection à Clostridium difficile et notamment dans ses formes récidivantes. Et dans cette indication-là, ça marche de manière quasiment magique. C'est des taux de succès supérieurs à 80 ou 90%.
Alors vous êtes, Harry Sokol, responsable pour la France du programme de transplantation fécale. Même si, en écoutant un peu le terme, on a une idée de ce que ça peut être, qu'est-ce que c'est exactement la transplantation fécale ?
Alors le concept de transplantation fécale, c'est extrêmement simple. Il s'agit d'essayer de remplacer un microbiote anormal chez un patient pour lequel on pense que son microbiote anormal joue un rôle dans la maladie, par le microbiote d'un sujet sain qu'on a bien sûr préalablement dépisté pour énormément de maladies, pour éviter de transmettre quelque chose d'indésirable.
Et alors comment on s'y prend ?
C'est extrêmement simple en pratique. Il s'agit de récupérer les selles d'un donneur, de les homogénéiser. Donc on va les mélanger avec du sérum physiologique, c'est-à-dire de l'eau salée pour être simple. Et puis ensuite on va filtrer juste pour retirer des résidus alimentaires. Et puis on va mettre cette préparation au congélateur avec une substance qu'on appelle cryoprotectante qui va empêcher la mort des bactéries à la congélation. Et ensuite on va attendre les résultats des examens qui sont réalisés.
Oui, sur le donneur, pour être sûr que le donneur n'est pas porteur de germes qui vont rendre encore plus malade celui que l'on veut soigner avec cette transplantation fécale. Une fois que tous les tests sont positifs, on décongèle, j'imagine, le prélèvement. Et comment on introduit ça dans la personne que l'on veut soigner ?
Alors, l'introduction se fait par les voies naturelles, ça peut se faire par le bas ou par le haut. Donc si c'est par le bas, ça peut se faire au cours d'une coloscopie. Ouais. Ou tout simplement par un lavement. Donc là, c'est vraiment extrêmement simple. Si c'est par le haut, ça peut être via un petit tuyau qu'on passe du nez jusque à l'estomac ou au début de l'intestin grêle. Et enfin, la dernière possibilité, c'est d'utiliser des gélules qui contiennent des matières fécales congelées et qu'on va tout simplement avaler.
Mais ce sont des pratiques médicales qui ont déjà cours ou c'est en test aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui on pratique dans les hôpitaux des transplantations fécales ou ces petites gélules à base d'excréments ? Est-ce qu'elles sont déjà disponibles ?
Alors, aujourd'hui, elles ne sont pas disponibles dans le sens où on ne peut pas les acheter à la pharmacie de cette manière-là. En revanche, il y a un certain nombre de centres hospitaliers qui ont réalisé l'intérêt de cette pratique, notamment pour l'infection à Clostridium difficile, qui se sont organisés pour produire localement des préparations fécales. Et donc, on réalise des transplantations fécales de manière tout à fait quotidienne dans certains hôpitaux, pas partout en France malheureusement, pour traiter les infections à Clostridium difficile uniquement.
Oui. Alors, vous dites malheureusement parce que finalement, on est dans une sorte de transition. Aujourd'hui, les tests prouvent que c'est efficace, mais la pratique ne s'est pas encore généralisée. Donc, ça veut dire que certains patients pourraient bénéficier de cette technique et ce n'est pas encore disponible partout.
Très clairement, pour l'infection à Clostridium difficile, il y a un manque d'accès à cette technique. D'abord parce que les médecins ne sont pas tous au courant et puis tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à diffuser suffisamment cette méthode aussi du fait d'un manque de moyens.
Et alors, si j'ai bien compris, Clostridium difficile, c'est une bactérie qui colonise le tube digestif et l'intestin après une prise d'antibiotiques et en fait qui vient remplacer les bonnes bactéries et qui engendre des diarrhées préjudiciables.
Schématiquement, c'est exactement ça.
Ouais.
une maladie écologique, en fait, pour laquelle finalement on a un traitement écologique qui marche bien. On va reconstruire l'écosystème et ce faisant, on va éliminer la bactérie pathogène. Et comme l'évoquait Harry, ça marche très très bien dans plus de 90% des cas, mieux que de nombreux médicaments en fait disponibles aujourd'hui. Je voulais ajouter un élément. En fait, on a donc toutes ces avancées qui sont faites au-delà de Clostridium difficile, qui est le traitement reconnu par les agences réglementaires en France, aux États-Unis et en Europe, partout. Donc on va explorer l'aptitude à cette démarche thérapeutique à agir dans pratiquement toutes les pathologies qu'on a évoquées, qui sont des maladies chroniques, des grandes maladies de société, des maladies épidémiques aujourd'hui qu'on contrôle pas bien et pour lesquelles on a envie de savoir si ce traitement-là serait une démarche appropriée.
Toutes les maladies d'inflammation intestinale pourraient être traitées par ce genre d'approche, Harry Sokol ?
Les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, ce sont probablement les maladies pour lesquelles on a le plus de données en dehors du Clostridium difficile. Ouais. Dans la rectocolite hémorragique, on a 4 essais bien faits qui montrent un bénéfice à faire de la transplantation fécale. Et il y a de nombreuses études en cours, et notamment à l'hôpital Saint-Antoine. Nous avons réalisé une étude pilote dans la maladie de Crohn qui est très encourageante. Et nous venons de débuter une grande étude dans la rectocolite hémorragique qui sera suivie par une autre étude dans la maladie de Crohn dans les prochains mois.
Encore plus surprenant, d'autres recherches ont montré que l'état du microbiote de patients atteints de cancer pouvait avoir un impact sur l'efficacité d'une chimiothérapie ou d'une immunothérapie. Plus précisément, la chercheuse Laurence Zitvogel a étudié l'effet d'antibiotiques pris avant une thérapie anticancer. Les résultats de son étude ont fait la une de la revue Science.
Ces antibiothérapies étaient capables finalement de bloquer l'efficacité des traitements du cancer, que ce soit des chimiothérapies ou des immunothérapies. Et cette démonstration a été apportée dans plusieurs systèmes de tumeurs qu'on peut implanter chez une souris.
La chimiothérapie et l'immunothérapie ne fonctionnent donc pas chez les souris au microbiote appauvri. Mais qu'en est-il chez l'humain ? En épluchant les dossiers des malades, l'équipe découvre que, comme chez les souris, ceux qui ont pris des antibiotiques quelques semaines avant la chimiothérapie ou l'immunothérapie ont moins bien répondu au traitement que les autres.
Donc là, on a pu conclure de façon sereine que probablement on avait besoin de notre flore intestinale pour pouvoir monter une réaction immunitaire efficace contre le cancer.
Joël Doré, ça ouvre des perspectives incroyables. Hein. On a bien compris, ce sont des thérapies lourdes pour soigner des cancers qui pourraient être plus efficaces si, avant de les appliquer, on réparait un peu le microbiote.
Oui, tout à fait. Donc, ce travail avec Laurence Zitvogel a été très très éclairant par rapport à ça, en partie avec l'INRA d'ailleurs, montrant que la composition du microbiote intestinal est un déterminant de la réponse au traitement, alors que pour des traitements lourds et chers également, moins de 50% des patients répondent aujourd'hui. Donc on a cette piste majeure pour agir et peut-être aider beaucoup plus de patients à répondre. Alors on est sur un schéma où peut-être on peut utiliser une bactérie ou deux qui semblent être manquantes. Peut-être qu'on peut aussi utiliser l'écosystème complet et se rapprocher du transfert de microbiote fécal dont on parlait tout à l'heure.
Ouais. Harry Sokol, on peut imaginer qu'à l'avenir, avant toute intervention d'un médecin ou de prise de traitement, on analysera le microbiote pour savoir si c'est déjà de là que vient le problème ou s'il faut le réparer pour pouvoir administrer un médicament.
Oui, donc il y a une recherche vraiment très active pour rechercher ce qu'on appelle des biomarqueurs dans le microbiote. Donc des éléments qui vont nous permettre de prédire la réponse à un traitement ou alors même de faire un diagnostic d'une maladie. C'est le cas avec la cancérologie et les immunothérapies dont on a parlé. Mais on peut tout à fait imaginer la même chose avant de commencer un traitement pour une maladie de Crohn, pour du psoriasis ou toute autre maladie.
Joël Doré, vous êtes un des pionniers de la recherche sur le microbiote. D'ailleurs, Harry Sokol était votre thésard, si j'ai bien compris. Il a effectué sa thèse sous votre direction. Vous vous attendiez, lorsque vous avez commencé à travailler sur ces sujets, à ce que l'on fasse des découvertes aussi importantes, parce qu'on n'est pas loin de la révolution en médecine, là. Hein.
On est dans une révolution à la fois portée par l'importance épidémiologique, en fait, ce qu'on a évoqué sur le fait qu'on travaille sur le microbiote et son altération dans les grandes maladies, mais aussi sur le fait que la technologie a énormément évolué et ça nous porte aussi beaucoup. On est capable aujourd'hui de faire une photographie de finalement du contenu génétique du microbiote intestinal depuis le tournant du siècle à peu près, et ça nous a également énormément apporté en termes de potentiel de caractérisation du microbiote intestinal, avec la possibilité d'accompagner des traitements qui sont aujourd'hui soit des impasses thérapeutiques dans certains cas, soit la possibilité de compléter le choix du clinicien par cette photographie du microbiote intestinal.
On termine rapidement avec un conseil pour prendre soin de notre microbiote. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours?
Moi, je dirais que maintenir la richesse du microbiote intestinal passe par l'alimentation, et une alimentation enrichie en fibres.
Ouais, beaucoup de fibres, c'est-à-dire beaucoup de fruits, de légumes, en quantité, et pas forcément les mêmes.
En quantité et en diversité, et on l'évoque dans le documentaire, 25 fruits et légumes différents par semaine, c'est encore mieux que 5 fruits et légumes par jour si c'est les mêmes tout le temps.
Un conseil à ajouter à cela, Harry Sokol?
Le médecin dira utiliser les antibiotiques avec précaution, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les antibiotiques sauvent des vies, mais les utiliser quand c'est nécessaire uniquement.
Merci Joël Doré et Harry Sokol.
Merci.
Merci.
À 16h, nous mettrons le cap sur l'Antarctique avec le glaciologue Cyprien Verseux, qui a passé 9 mois isolé dans la base scientifique Concordia au cœur du continent blanc. Il va nous raconter cette aventure humaine et scientifique.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blam. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Pensa assim, hoje moramos na cidade grande, mas nossa casa é do interior, e os nossos filhos cada vez mais lindos. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor.
Meu primero amor, Luca Santana.
France Inter. Du vent dans les synapses.
Daniel Fievé.
Mais pour commencer,
on va être spectaculaire.
Oui, on va parler d'une technologie nouvelle qui est vraiment étonnante parce qu'elle mélange le rêve, la réalité, la fiction. Ça s'appelle les images virtuelles. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit.
Eh bien, en fait, il s'agit d'images qui n'ont aucune réalité. C'est-à-dire qu'elles sont complètement imaginées par les hommes qui les communiquent aux mémoires d'ordinateur. Alors je commence par me connecter sur la machine en accrochant une ceinture impressionnante qui permet de dire à l'ordinateur exactement où je me trouve. Ensuite, je vais mettre le casque. Alors, il est stéréophonique. J'ai donc une perception du son et du relief. Vous voyez, si je tourne la tête, je peux voir un paysage complètement virtuel.
Alors, Patrick, robot Esther, oui. Si je peux me permettre. C'est très joli tout ça, ça amuse beaucoup les enfants, mais à quoi ça sert concrètement ?
Voici comment le journaliste Patrick Esther, en 1991, dans le JT de France 2, présentait la réalité virtuelle et l'imposant dispositif technologique dont il fallait s'équiper pour y accéder. Bonjour Anatole Lécuyer.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur à l'INRIA de Rennes et vous venez de publier « Votre cerveau est un super-héros quand les nouvelles technologies révèlent nos capacités insoupçonnées ». Du chemin a été fait dans le domaine de la réalité virtuelle depuis 1991. Vous avez en tête ce à quoi ressemblait le dispositif avec lequel ce journaliste était en train de s'équiper en 1991.
Oui, je me l'imagine assez bien. En fait, les dispositifs ont évolué technologiquement l'intérieur, mais souvent l'aspect extérieur c'est sensiblement le même, même si ça s'est considérablement réduit.
Ouais, parce qu'à l'époque c'était quand même plus mastoc, hein, le gros casque, une ceinture, ça prenait de la place.
Voilà, là c'est vraiment beaucoup plus miniaturisé, puis ça tient parfois dans un téléphone.
Ouais. Par contre, les questions des journalistes n'ont pas complètement changé. Hein. Je vous voyais sourire quand ils demandent mais à quoi ça sert. C'est vrai que vous le dites dans votre ouvrage. On vous pose souvent cette question de à quoi ça sert tout ça ?
Ouais, alors je dis souvent qu'on est des scientifiques, on n'est pas des devins, on n'a pas inventé la boule de cristal, on ne sait pas deviner l'avenir de ces technologies et puis à quoi elles vont servir dans 50 ans, mais on fait quand même l'effort, on essaie. Si maintenant j'essaye de répondre à cette question, ouais. Et je vais essayer d'y répondre aujourd'hui.
J'espère quand même que vous allez faire l'effort de nourrir ma curiosité. Alors, vous gardez-vous un souvenir ému de votre première plongée dans la réalité virtuelle ? Nous sommes à la fin des années 90, hein, 99, 2000. Racontez cette expérience que vous racontez avec beaucoup d'émotion en fait dans votre ouvrage.
Oui, c'est un moment très fort pour moi parce que c'est le moment où j'ai compris que vraiment il se passait quelque chose avec ces technologies-là, quelque chose dont j'avais entrevu les possibilités en regardant ce genre de reportage là que vous avez diffusé. Là, j'avais 18 ans quand il passait à la télévision, mais c'est le genre de choses que je pouvais regarder à cette époque. Et puis quelques années après, bon, j'ai démarré ma thèse sur ce sujet-là, mais j'ai vraiment pu expérimenter cette sensation très puissante d'immersion dans un autre univers virtuel. Fin des années 90, en Allemagne, j'étais parti avec ma directrice de thèse à l'époque pour visiter ce qui se faisait de mieux à l'époque dans le domaine, un laboratoire allemand situé à Bonn. Et là, donc, il y avait un système qui était quasi unique en Europe. C'est un système CAVE en anglais. Donc, c'était une sorte de cube, un espace cubique dans lequel on rentrait équipé de lunettes comme celles qu'on chausse au cinéma 3D. Chaque face du cube était composée d'écrans. Enfin, c'était des écrans stéréoscopiques comme au cinéma pour voir en relief. Et donc là, en l'occurrence, les côtés devant nous et puis le plancher aussi étaient en relief. Et donc, on était plongé à l'intérieur de l'image 3D. Et là, c'était un décor très sommaire, un peu comme ce qui était décrit dans le reportage, très pauvre graphiquement parce que les calculateurs de l'époque n'étaient pas capables d'afficher des choses très compliquées. Mais néanmoins, je naviguais dans une espèce de... Dans mon souvenir, c'est un peu confus, mais c'était une forêt virtuelle, une plaine virtuelle. Et puis, je vois des petites choses qui clignotent à l'horizon. Elles se rapprochent de moi, sont des papillons. Ils commencent à m'entourer, je regarde ces papillons, ils étaient très très simples aussi, mais je suis complètement envoûté par ces créatures. Ouais. Je les regarde pendant des minutes entières, en fait sans m'en rendre compte, parce qu'au bout de quelques temps on me dit « bah il faut sortir là, c'est le moment de passer à la suite ». Moi, je pensais être resté 30 secondes dans le cave et j'étais resté 5 ou 10 minutes. Ouais. Et ça, c'était vraiment une expérience qui m'a montré la puissance de cette immersion.
Ce qui est surprenant quand on y pense, c'est que ce que l'on perçoit dans ces dispositifs est finalement moins riche que ce que l'on perçoit quand on est dans la réalité. Parce que là, en tout cas, l'expérience que vous décrivez, ce sont les yeux qui fonctionnent. Finalement, beaucoup des autres sens sont anesthésiés, ne sont pas sollicités. Et pourtant, vous gardez un souvenir intense de cette expérience qui est finalement plus pauvre qu'une expérience dans la réalité.
Oui, c'est vrai, c'est un paradoxe assez étonnant, vous avez raison. quand on y réfléchit, et si on fait un petit peu attention, en fait, on regarde qu'on vit une expérience finalement aussi de privation sensorielle. C'est-à-dire que bien souvent, on a l'image, mais on n'a pas toujours le son, là, de temps en temps. Puis, il nous manque plein d'autres sensations qu'on a dans la vie de tous les jours, le toucher, l'olfaction, voire même les sensations gustatives. Si on dévore un morceau de gâteau virtuel, il va nous manquer beaucoup de choses. Donc, c'est mon travail et le travail de tous les collègues chez INRI à Rennes, là, où on travaille tous ensemble là-dessus pour essayer d'augmenter l'immersion et d'arriver à des sensations qui sont un petit peu plus complètes.
Du coup, pour leurrer nos sens, pour nous donner l'illusion que nous ressentons des choses, il faut bien connaître biologiquement comment fonctionnent nos sens. Alors, l'un de vos sens de prédilection, c'est le toucher.
Alors, c'est vrai que pour arriver à concevoir ces technologies immersives qui s'adressent à vos sens, puis derrière à votre cerveau et à votre interprétation de tout ça, de toutes ces stimulations sensorielles, il faut connaître un petit peu la perception. Alors je prétends pas être un physiologiste ou un psychologue, hein, mais je suis quelqu'un qui développe des technologies, mais il faut s'y intéresser.
Mmh. Il existe des illusions du toucher comme il peut exister des illusions visuelles?
Alors c'est vrai que j'ai découvert qu'il existait des illusions haptiques.
Ouais. Haptique, c'est le sens optique. Du toucher, hein, pour voilà, le dire avec des mots compliqués.
Voilà, c'est le mot un peu savant pour désigner et qualifier le sens du toucher. Donc ces illusions haptiques, on peut les révéler de manière assez simple. Donc vous pouvez les faire chez vous ou les tester chez vous, par exemple, avec cette illusion dite du thaler, qui était une vieille pièce de monnaie utilisée en Europe il y a pas mal de temps. Mais ça marche aussi avec des euros aujourd'hui. Hein. Il suffit de prendre deux pièces de 1 euro, d'en mettre une au frigo, de la ressortir quelques temps après, une fois qu'elle est bien froide. Vous sous-pesez les deux pièces de monnaie, une dans la main gauche, une dans la main droite, et puis vous allez peut-être vous rendre compte ou avoir l'impression qu'une des deux pièces est plus lourde que l'autre. Donc là, vous êtes victime d'une illusion haptique, l'illusion que la pièce la plus froide est plus lourde.
En travaillant dans la réalité virtuelle, en fait, vous êtes une sorte d'illusionniste.
Je suis d'accord avec vous. Devant l'ampleur de la tâche devant nous de réaliser des technologies qui vous font croire à une autre réalité, qui est en réalité finalement, enfin c'est tout simplement impossible de réaliser cela en l'état actuel de ces technologies. Il faut trouver des trucs, des astuces, et il faut jouer avec la perception, un petit peu à la manière d'un illusionniste ou d'un magicien.
Alors par exemple, pour le toucher, comment on crée une illusion en réalité virtuelle?
Alors là, c'est vraiment le tout début de ma thèse. En fait, ça me ramène 20 ans en arrière, là, quasiment, où effectivement, mon objectif, c'était de simuler des sensations, de toucher une image, par exemple, avec un curseur de souris. Donc vous passez votre curseur de souris sur une photographie, à l'écran, affichée sur un ordinateur, et vous voulez ressentir le relief de cette image. Comment faire avec une simple souris? Et le truc qu'on a inventé à l'époque, l'idée consistait à jouer avec le mouvement du curseur, à ralentir ou accélérer le curseur, de manière à vous faire ressentir les creux et les bosses de l'image. Donc par exemple, en ralentissant le curseur, vous allez avoir l'impression que ça monte, et en accélérant le curseur, vous allez avoir l'impression que ça descend.
Comme si on peinait à monter sur une butte, puis ça glissait tout seul quand on redescend.
Voilà, donc quand vous montez sur un caillou qui est affiché sur la photo, le curseur ralentit, puis dès que vous descendez, ça accélère. Et cette simple technique, très très simple, hein, de jouer avec la vitesse du curseur, on l'a ensuite baptisé le retour pseudo-haptique, ces illusions haptiques intégrées via la vision. C'est un terme qui est repris dans toute la communauté.
Alors en réalité virtuelle, on peut aussi jouer avec nos sens de la vision, nous donner finalement des capacités que nous n'avons pas vraiment. Par exemple, c'est aussi une recherche que vous avez menée. Comment notre cerveau s'adapterait-il si nous avions une vision à 360 degrés, autrement dit si nous étions dotés du champ visuel d'une mouche?
Voilà, c'était une idée un petit peu folle, comme il en vient des fois dans nos cerveaux de scientifiques, parfois endormis, parfois pas bien réveillés. Et là, en l'occurrence, c'était, tiens, qu'est-ce que ça ferait de voir comme une mouche, ou comme un lapin, comme une vache, comme ces animaux qui sont dotés d'une vision à presque 360 degrés. Donc on a créé ce prototype qu'on a appelé le FlyVis, la vision de la mouche en anglais, qui permet effectivement, chaussé d'un visio-casque, équipé d'une caméra 360 qui filme tout ce qui se passe autour de vous, et on l'affiche en temps réel tout de suite dans le visio-casque. En fait, vous voyez comme une carte postale panoramique en temps réel de votre environnement, et vous vous mettez à ne plus avoir besoin de tourner la tête pour regarder ce qui se passe dans votre dos.
Ce qui est absolument incroyable dans cette expérience, c'est pas tant le dispositif technologique, en tout cas moi, c'est pas ce qui me passionne, c'est la façon dont le cerveau s'adapte relativement rapidement à quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour lui. Tout d'un coup, le champ de vision est à 360 degrés et les gens que vous avez équipés de ce dispositif s'habituent et apprennent à se déplacer dans l'espace avec ce nouveau sens.
Oui, il y a une période d'adaptation, hein, mais les gens arrivent relativement rapidement, on n'a pas mesuré ça encore une fois, mais à se mettre à marcher en arrière pour passer un pas de porte, ou à serrer la main à quelqu'un qui est dans son dos sans se retourner, etc. Et c'est assez étonnant. Et ça m'évoque autre chose aussi, c'est le sentiment de vertige en réalité virtuelle. Qui là, si vous chaussez un casque de réalité virtuelle et si on vous met devant un précipice virtuel, alors que vous êtes en réalité sur le plancher des vaches, sur un sol parfaitement plat, si je vous demande de faire un pas et de marcher dans le vide virtuel, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire. Et là, votre cerveau inhibe un petit peu, ou en tout cas, il n'a pas envie de commettre cette folie virtuelle d'aller vous jeter dans un vide alors qu'en fait, vous êtes dans votre salon.
Ça montre à quel point vous arrivez à leurrer notre cerveau. Alors, vos expériences vont assez loin. Vous avez donné l'impression à des gens aussi qu'ils avaient un sixième doigt, qu'ils avaient une main avec six doigts. Alors, c'est des choses qui existent dans la nature. Il y a certains humains qui ont un sixième doigt. Mais là, sur des personnes qui avaient cinq doigts, vous leur mettez artificiellement en image virtuelle un sixième doigt. Et très vite, ils apprennent à s'en servir.
Ouais, là, c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, me passionne en ce moment. C'est le sujet de l'avatar, en référence au film, par exemple, de Cameron. Ouais. Donc, cette question liée aux avatars en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on met un casque de réalité virtuelle, on regarde son corps, et en lieu et place de notre corps se trouve un corps virtuel, qui peut être fidèlement reproduit par rapport au nôtre, mais qui, dans certains cas, peut être très différent. On peut changer de musculature, d'embonpoint, on peut changer de couleur de peau, on peut même changer de sexe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce qu'on va accepter ce corps virtuel? Est-ce qu'on va se comporter différemment selon notre corps virtuel? Et quand on enlève le casque, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Donc, c'est ces questions qui nous intéressent beaucoup. Et pour aller assez loin, en fait, sur cette question-là, on essaie de regarder jusqu'où on peut aller. Est-ce que si je vois un corps, et je suis dans un corps qui est anatomiquement, morphologiquement très différent du mien, je vais l'accepter ou je vais le rejeter. Ouais. Là, en l'occurrence, on accepte son sixième doigt assez naturellement, assez rapidement. Et à la fin, quand on retire ce sixième doigt, c'est là que c'est le plus intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose.
France Inter, du vent dans les synapses.
Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital.
Alors, rien de tout ça n'est réel?
Qu'est-ce que le réel?
Un extrait du film Matrix, Anatole L'Écuyer. Vous terminez votre ouvrage en disant que la question « jusqu'où peut-on aller ?» est une question que tous les journalistes vous posent et que vous refusez d'y répondre. Alors, je biaise un peu avec cet extrait de Matrix. Est-ce qu'on ne va pas finir comme les personnages de Matrix, tous reliés à des machines, évoluant dans un monde virtuel? Ça restera de la science-fiction ou on pourrait y arriver un jour?
Alors, je pense qu'on en est très très loin. On est vraiment très très loin de cette capacité technologique-là. Par contre, c'est vrai que ce que je dis dans le livre, c'est que je pense qu'effectivement, les technologies qu'on développe, elles ont vocation à se mélanger, à s'hybrider et à donner des casques aujourd'hui hybrides qui vont combiner électrodes et affichage de réalité virtuelle pour, moi je pense, des applications qui sont très intéressantes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la formation, de la création. Je pense qu'il y a plein de choses maintenant à utiliser ces technologies pour développer des applications formidables.
Alors votre livre, Anatole L'Écuyer, est aussi l'occasion de découvrir un parcours. Vous vouliez faire de la bande dessinée étant plus jeune. Ça aurait été une autre façon de nous plonger dans des mondes imaginaires, la bande dessinée?
Oui, et je continue à dessiner d'ailleurs.
Ouais, il vous arrive encore de dessiner avec des vrais crayons sur du vrai papier?
Ouais, c'est un vrai plaisir et je continue à revendiquer cette activité aussi imaginaire.
Merci Anatole L'Écuyer. Je rappelle le titre de votre livre, Votre cerveau est un super-héros, aux éditions Humaine Science. Un grand merci à vous.
Merci.
Dans la deuxième heure, nous allons partir en Antarctique avec l'astrobiologiste et glaciologue Cyprien Verseux. L'an dernier, il a passé 9 mois dans la base scientifique de Concordia, au beau milieu du continent blanc. Avec une dizaine d'équipiers, il a dû affronter des températures de moins 80 degrés, supporter l'isolement, la promiscuité, et puis la nuit polaire, 3 mois sans voir le soleil. Il va nous raconter cette aventure humaine et scientifique.
C'est pas perdu puisque tu m'aimes. Un peu moins fort, un peu quand même. suis ta solution sans problème, gadget évident. Mais toi maintenant, tu veux plus en jouer.
La rediffusion de l'émission Du vent dans les synapses continue après les infos sur France Inter.